l'approche des élections européennes du 9 juin 2024 en France, beaucoup spéculent sur un score élevé des partis nationaux populistes européens. Dans une note collective publiée le 25 avril, l'Institut Montaigne revient sur les scénarios qu'induirait un bon score des partis de Marine Le Pen en France, de Giorgia Meloni en Italie ou de Jarosław Kaczynski en Pologne. Je suis Fabien Cazenave, journaliste spécialisé dans les questions européennes à Ouest-France. Et pour en discuter, l'émission Europe du mur des podcasts a invité Georgina Wright, directrice adjointe des études internationales de l'Institut Montaigne. Georgina Wright, bonjour.
Bonjour.
Peut-on parler, Georgina Wright, d'une seule extrême droite? Je vous pose cette question parce qu'on se demande si tous ces partis d'extrême droite sont aussi unis dans leur groupe que peuvent l'être les autres partis traditionnels de droite ou de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors c'est une excellente question parce que effectivement, comme vous l'avez dit, on attend vraiment une progression historique de ces partis au sein du Parlement européen, une trentaine de sièges supplémentaires, ce qui leur permet d'atteindre un cinquième des sièges au sein du Parlement européen. Alors c'est en deçà de la majorité requise pour former une coalition de blocage, mais néanmoins c'est une présence qui est beaucoup plus grande qu'on l'a vu pour les législatures précédentes. Mais ce qu'on a pu constater ces cinq dernières années, c'est qu'en fait, ces partis sont divisés entre eux. Alors, ils sont principalement représentés dans deux groupes au sein du Parlement européen. On a le groupe Identité et Démocratie, où là, il y a le Rassemblement national, la Lega italienne ou encore l'AFD allemand, où ils sont à 59 sièges. Et puis, on a les conservateurs et réformateurs européens, où là, ils sont à 68 sièges. Et on a justement le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'au sein de ces partis, il existe vraiment des fortes divisions, que ce soit par exemple sur le soutien à l'Ukraine, leur position vis-à-vis de la Russie, ou encore ce qu'on fait pour gérer la crise migratoire. Mais ils sont également divisés entre groupes, donc pas seulement au sein des groupes, mais entre eux également. Donc on est loin, loin, loin de parler d'une espèce de coalition d'extrême droite qui soit unie et prête à peser vraiment sur l'agenda européen.
Comme vous l'avez rappelé, hein, pour avoir une majorité au Parlement européen pour la période 2024-2029, il faudra obtenir 360 élus sur 720. Est-ce que ces partis d'extrême droite sont en position d'avoir une telle majorité? Vous nous avez dit que non. Est-ce que, pour autant, ça pourrait leur permettre d'avoir une minorité de blocage?
Pour peser numériquement au Parlement européen, alors c'est certainement une condition pour avoir de l'influence, mais elle n'est pas suffisante pour infléchir l'agenda européen. Là, même s'ils ont une augmentation significative, ils n'auront pas, d'après les sondages, les 361 sièges requis pour former une coalition de blocage. Donc, non. Par contre, ce qu'on pourrait voir, c'est effectivement une tentative de leur part de travailler avec d'autres groupes au sein du Parlement européen, et notamment le groupe de centre-droit, le PPE. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait plusieurs conditions qui soient remplies. La première, c'est que le PPE accepte de travailler avec ces groupes d'extrême droite. C'est pas du tout clair que ce soit le cas. Au cours de cette dernière législature, on les a vus travailler ensemble seulement quand ils étaient contre la proposition de loi faite par la Commission européenne, donc par exemple sur les pesticides. Mais on ne les a même pas du tout vus travailler ensemble pour mettre une nouvelle proposition sur la table ou pour un amendement, etc. Donc c'était vraiment à chaque fois contre quelque chose sans proposer une alternative. Donc il faudrait que ces partis d'extrême droite, ces groupes d'extrême droite, parviennent non seulement à travailler ensemble, mais également à travailler avec d'autres groupes au sein du Parlement européen. Et là, on est vraiment loin du compte.
Alors, il faut rappeler, chers auditeurs, que jusqu'à présent, comme vous avez dit sur certains textes, pour voter contre, pour les faire tomber, comme sur la loi sur la biodiversité, il y avait pour le coup une alliance entre l'extrême droite et la droite au Parlement européen, mais que le parti du PPE, donc le Parti populaire européen, c'est là où siègent les Républicains, il faut rappeler que il n'y a pas d'alliance, par exemple, avec Identité et Démocratie, le parti de Marine Le Pen étant vraiment un épouvantail pour ce groupe-là, et que effectivement il n'y a pas eu de majorité pour se construire là-dessus. Et d'ailleurs, il faut noter que le fait que Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, avec la liste menée par Marion Maréchal, ait fait annoncer ces derniers mois qu'il rejoignait le groupe CRE, là, les conservateurs et réformateurs européens, où il y a Giorgia Meloni, c'était un vrai problème pour le Parti populaire européen qui, pour le coup, cabinet de Manfred Weber me disait, par exemple, que c'était une erreur stratégique. Donc ça, pour le coup, vous confirmez qu'il y a des grosses difficultés à travailler entre ces partis avec la droite traditionnelle sur la constitution des textes.
Ah mais absolument. Et en fait, comme on l'a dit précédemment, c'est pas seulement qu'ils doivent se mettre d'accord sur le texte en question. Donc, par exemple, l'immigration, on voit une forte différence entre le parti de Giorgia Meloni qui dit il faut absolument des contrôles aux frontières, mais il faut également qu'on puisse répartir en fait les immigrés à travers les différents États membres, et la position de Fidesz qui est le parti du premier ministre hongrois qui dit très bien pour la gestion des frontières, par contre pas du tout de répartition. Donc ils sont même pas capables de se mettre d'accord entre eux. Et puis effectivement, il y a cette deuxième condition, comme vous le dites, de pouvoir travailler avec des partis de centre-droite. Et là, pour toutes des questions, mais surtout aussi de positionnement à l'échelle nationale, ça devient compliqué. C'est-à-dire que, prenez l'exemple du gouvernement polonais actuel. Alors, c'est Donald Tusk qui est le premier ministre polonais. Son parti est représenté au sein du PPE. La grande opposition pour Donald Tusk, c'est le parti du PiS, extrême droite polonais, qui lui est représenté au sein du Parti conservateur et réformiste. Je verrais très mal comment Donald Tusk voudrait tout d'un coup s'aligner avec le PiS sur une directive, à moins que vraiment il voit que c'est dans l'intérêt national de s'y opposer. Mais on voit qu'il y a toutes des conditions politiques à l'échelle nationale qui en fait colore un petit peu la capacité de s'aligner et de coopérer à l'échelle européenne. Donc effectivement, c'est très compliqué.
À vous entendre, on a l'impression que finalement, nous, les médias, on en fait peut-être un peu trop sur la poussée de l'extrême droite. Mais pour autant, pourquoi est-ce que, selon vous, nous en parlons autant?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, ils continuent à croître leur nombre hein, au sein du Parlement européen, ce qui prouve bien qu'ils détiennent beaucoup de soutien au sein des différents États membres. Donc, ce n'est pas à ignorer. Et deuxièmement, en fait, on voit que ces partis, en étant de plus en plus nombreux au sein du Parlement européen, parviennent à vraiment poser les termes du débat. Et même s'ils sont, enfin, si on devait imaginer qu'ils occupent un cinquième des sièges lors de la prochaine législature, il semblerait en tout cas qu'ils sont beaucoup plus écoutés que, disons, les groupes de centre-gauche ou de centre-droite. Et donc, à partir du moment où on pose les termes du débat, on peut plus le monopoliser, et même si on n'est pas force de proposition, on peut du moins faire du bruit et faire en sorte que les négociations prennent plus de temps, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer effectivement la présence de l'extrême droite et comment elle peut peser sur le débat européen. En revanche, transformer l'Union européenne de l'intérieur, c'est ce que dit hein, le Rassemblement national, Jordan Bardella, mais également beaucoup de têtes de liste de partis d'extrême droite partout en Europe. Là, on est vraiment loin du compte. C'est-à-dire que quand on regarde comment ils agissent au sein du Parlement européen, ils ne participent pas nécessairement au travail de commission, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord entre partis au sein d'un même groupe, les deux groupes d'extrême droite ne parviennent pas à se mettre d'accord, et puis ils ont vraiment du mal à former des majorités avec les autres groupes plutôt de centre au sein du Parlement européen. Donc ils ont beaucoup de travail, je pense, à mettre en œuvre pour prouver qu'effectivement, ils parviennent et ils arrivent à changer et à transformer l'Union européenne de l'intérieur. Et c'est tout ça l'enjeu pour l'Union européenne, c'est que si on veut la transformer, il faut qu'on puisse compter sur le soutien d'une majorité de députés au sein du Parlement européen, mais également le soutien d'une majorité de gouvernements des États membres qui, eux, siègent au sein du Conseil. Donc, ce n'est pas évident et ça demande un peu une tactique de travail. Et ce sera intéressant de voir s'ils y parviennent. Mais pour l'instant, tous les sondages et toute l'analyse nous montrent qu'ils n'y parviennent pas.
Vous parlez dans votre note justement du processus interinstitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Parlement européen qui décide des lois et des européennes avec les directives ou les règlements. Il y a aussi les accords à trouver avec, une fois que le texte est voté au Parlement européen, avec la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, qui représente les intérêts des États membres. Quel serait l'impact pour le Parlement européen s'il y avait une majorité plus diverse, on va dire, et plus limitée au sein du Parlement européen sur le vote des textes? Est-ce que ça aura un impact sur ce processus décisionnel?
Alors tout à fait, on pourrait en fait avoir deux scénarios. Le premier scénario, c'est que par magie, j'ai envie de dire, on a une coalition entre groupes qui est stable et qui est hyper performante et qui effectivement parvient à s'imposer. Mais ce qu'on a vu ces 5 dernières années, c'est qu'on a vu un Parlement qui était beaucoup plus imprévisible, des coalitions qui étaient changeantes et qui changeaient au gré du texte étudié. Et là, quand il y a un Parlement européen qui est plus divisé, qui a du mal à former des coalitions en faveur de textes, eh ben, on peut souvent voir un Parlement qui est plus marginalisé, c'est-à-dire le Conseil européen, donc ce groupe qui, cette institution qui regroupe les 27 États membres, veut aller vite. De son côté, est en train de mener des négociations. On voit une commission qui se rapproche aussi beaucoup du Conseil et qui attend finalement que les négociations aboutissent au sein du Parlement européen. Donc on pourrait vraiment avoir ces deux contextes. Un Parlement européen renforcé, qui pèse, qui parvient à s'imposer, etc., qui est même infléchi l'agenda européen en proposant des idées de nouvelles démarches et de textes au sein de l'Union européenne, ou bien un Parlement au contraire qui est très divisé ou des coalitions qui sont changeantes ou tout simplement on ne parvient pas à former une coalition et qui là devient plus imprévisible et peut-être un peu plus marginalisé dans le contexte des négociations. Alors tout texte européen est le fruit d'un consensus entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, comme vous l'avez dit, il faudra voir quel poids vraiment peut exercer un Parlement européen qui soit divisé. L'avenir nous le dira.
Alors, c'est la fin de notre émission Europe du mur des podcasts. Merci, chers auditeurs, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour continuer à nous aider, je vous invite à mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Cela augmentera notre visibilité dans les algorithmes de Spotify, Apple Podcasts et autres Google Podcasts. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Et je remercie encore Georgina Wright. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe des études internationales de l'Institut Montaigne. Et chers auditeurs, je vous dis au revoir, à bientôt.
Au revoir.